Bonjour à tous. Bienvenue sur cette année une présentation et un webinaire du coup en distanciel pour cette demi-journée sur la peau qui est organisée chaque année au mois de mars et qui du coup l'an dernier n'avait pas pu avoir lieu, qu'on a reporté à plusieurs reprises, d'abord initialement à l'automne et jusqu'à aujourd'hui. De sorte qu'on avait fait l'impasse l'an dernier, mais que toute l'équipe que maintenant vous identifiez probablement du CRESIP est très heureuse de vous proposer chaque année. Une journée du coup qui va parler d'autre chose que du Covid. Je pense que beaucoup de congrès ayant été annulés, beaucoup de journées de formation ayant été annulées ces derniers mois, je notifie qu'il y a une demande importante de formation de beaucoup d'entre nous, médecins généralistes qui avions l'habitude de participer comme ça à des demi-journées de formation, des journées de formation. Celle qu'on vous propose aujourd'hui a un succès du coup plus important même que les années précédentes, du simple fait qu'on n'est pas contraint par les inscriptions, par la salle. On se demandait jusqu'où ce serait possible de la faire et dans quelle mesure elle aurait du succès en étant en distanciel et vous êtes plus nombreux que les autres années, vous êtes inscrits, 150 aujourd'hui. C'est une satisfaction, on espère que l'interactivité restera au rendez-vous, puisque c'est une des caractéristiques de cette demi-journée sur la peau, où on interagit avec chaque intervenant. Donc cette année, ça se fera du coup par le biais des modalités de chat qu'on trouve sur la visioconférence, sur le webinaire. Chaque intervention sera suivie d'un temps de questions que vous pourrez du coup poser au fil de la présentation, dès lors que vous le souhaitez, qui seront en fait abordées à la fin, présentées aux intervenants. On les reprendra successivement au terme de chaque présentation. Concrètement, vous l'avez sûrement vu dans le programme, on a des présentations donc d'une quinzaine de minutes, suivies à chaque fois de 5 minutes de questions. Ce sera le rôle des modérateurs moi-même, Marc-Antoine Pistorius, de s'assurer voilà, du déroulé de l'ensemble de la demi-journée. Le programme, j'espère, si vous êtes là, c'est que je pense que vous y trouviez évidemment votre intérêt. En tant que médecin généraliste moi-même, j'avais cette vigilance sur la pertinence des sujets qui sont abordés. Je pense que chacun retrouvera en listant le programme. Donc, des présentations sur les lésions vulvaires les plus fréquentes. J'ai eu la chance de parcourir un tout petit peu les diapos. Il y a beaucoup d'iconographies qui vous seront présentées. C'est toujours très intéressant. L'allergie à la pénicilline, un truc extrêmement fréquent qui amène à beaucoup de surdiagnostics. Claire Bernier nous présentera ça juste en suivant dans la première session. Acrocyanose, engelure, avec un focus particulier cette année puisque ces problématiques vasomotrices font aussi l'objet d'un regard particulier avec ce qui a été décrit sur les cas de Covid. Marc-Antoine Pistorius présentera ça dans la première session. On aura un temps de pause ensuite, ce qui laissera à chacun, alors même qu'on est à distance, le temps de prendre un café et de garder sa concentration pour la deuxième partie des présentations. Deuxième partie des présentations sur les cicatrices suite aux lésions sur le visage, qui est une préoccupation. Nous, on voit des lésions souvent petites et les interventions, il y a toujours cette préoccupation esthétique. C'est Florence Pitalier qui nous présentera cette partie-là. Les gestes réalisables en médecine générale, cryothérapie, savoir faire une biopsie dans un contexte où on a de plus en plus de besoin de mieux connaître ce type de gestes dès lors que l'accès au dermato peut parfois être plus difficile. Véronique Pistorius présentera cette partie. Ensuite, toute une partie sur les actualités, notamment avec toutes les actualités de ce qui se met en place sous l'entête de l'équipe de Dermato, sous l'entête de l'équipe du CRESIP, dans des innovations un petit peu d'interaction avec des plateformes, avec l'éducation thérapeutique, la télé-expertise. C'est Brigitte Drano qui présentera notamment cette partie-là avec, et qui conclura notre demi-journée. On passe à la deuxième présentation. C'est le docteur Claire Bernier qui nous présente allergie à la pénicilline, conduite à tenir en pratique.
Bonjour, donc je vais vous présenter en effet un vaste sujet qui est celui des allergies aux bêta-lactamines, qui est un sujet quand même très fréquent en médecine générale. Donc en fait, Pour résumer le problème, ce que finalement on craint en médecine générale, c'est un patient qui va faire une anaphylaxie sévère suite à une prise inappropriée d'amoxicilline, ou de l'autre côté, on va craindre une toxidermie grave, que sont les syndromes de Stevens-Johnson-Lyell ou les Dress syndrome. Alors, pour remettre tout de suite le sujet quand même dans l'épidémiologie, il faut quand même savoir que l'anaphylaxie est quand même rarissime, avec en France, vous voyez sur une étude sur 8 ans, uniquement 333 cas d'anaphylaxie et parmi ceux-là, uniquement 1,8% de décès. Donc en gros, 4 patients ou 5 qui sont décédés sur 8 ans d'anaphylaxie et une étude similaire aux États-Unis qui retrouve finalement à peu près les mêmes taux. Si on met ça en rapport avec le nombre de décès par AVP par jour en France, 10 décès, donc le risque qu'un jour, un de vos patients fasse une vraie anaphylaxie mortelle à l'amoxicilline est quand même, ce serait vraiment pas de chance. À l'inverse, les toxidémies graves, c'est là encore rarissime. La nécrolyse épidermique toxique, c'est 0,4 par million chez les enfants par an et l'adulte 2 cas par million par an chez l'adulte. Et le DRESS est aussi une pathologie rare. À l'inverse, ce qu'on voit tout le temps, c'est ces patients qui arrivent à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, avec une vague étiquette d'allergie à l'amoxicilline qui au mieux est marquée dans le carnet de santé avec une histoire à peu près détaillée, ou au pire, qui arrivent avec leur petit papier avec écrit allergie pénicilline, sans qu'on sache même quelle pénicilline c'était, et on n'a aucune anamnèse sur l'histoire qu'ils avaient présentée. Et en fait, c'est embêtant parce qu'on se rend compte que des études chez les enfants montrent que 1 à 10% des enfants traités par bêta-lactamine font des éruptions cutanées, 10% des parents suspectent une allergie médicamenteuse chez leur enfant. Et lorsque ces enfants sont explorés par test et réintroduction d'amoxicilline, on se rend compte que moins de 10% d'entre eux récidivent. Et le taux est même probablement très inférieur, parce qu'il y avait une étude chez les militaires où en fait tous les jeunes militaires étiquetés allergiques à la pénicilline avaient eu une réintroduction d'amoxicilline et 1,5% seulement d'entre eux avaient récidivé. Donc probablement que seulement à peu près 2,6% des patients étiquetés allergiques à la pénicilline sont en fait réellement allergiques à la pénicilline. Donc, très clairement, il y a un surdiagnostic énorme des allergies aux bêta-lactamines. Or, c'est embêtant parce qu'un patient qui est allergique à une bêta-lactamine, il y a une très belle étude sur 51 000 patients, ils ont apparié des patients allergiques aux bêta-lactamines ou non allergiques, et on se rend compte que ces patients, ils vont être hospitalisés plus longtemps, ils vont bien sûr avoir d'autres antibiotiques que les bêta-lactamines, dont la clindamycine, la vancomycine ou les quinolones, avec un quart de pourcent en plus de patients qui vont faire des clostridiums et surtout beaucoup plus de bactéries multirésistantes. Donc c'est vraiment un problème de santé publique également. Il faut absolument qu'on sache détecter quel patient est allergique ou non à la pénicilline. Donc les enjeux, c'est lorsque vous voyez un patient qui a une réaction cutanée dans un contexte de prise de bêta-lactamine, est-ce que ce patient a une éruption qui est plus vraisemblablement liée à son infection ou est-ce que c'est une hypersensibilité médicamenteuse? Et si c'est une hypersensibilité médicamenteuse, est-ce qu'elle est réellement allergique, donc allergie immédiate ou allergie retardée, ou est-ce que finalement c'est une éruption non allergique dans un contexte particulier, comme le contexte que vous connaissez parfaitement, des patients qui ont une mononucléose infectieuse, qui vont prendre une pénicilline et qui vont faire un rash très connu, ou les patients urticariens chroniques. Donc le but aujourd'hui, c'est de comprendre ces mécanismes-là et que vous sachiez reconnaître les vrais allergiques. Donc ça, vous connaissez par cœur ce tableau des classifications de Gell et Coombs sur les allergies immédiates et les allergies retardées. Donc les allergies immédiates, c'est lié aux IgE et les allergies retardées sont à médiation cellulaire. Donc les allergies immédiates, en fait, c'est extrêmement simple à retenir. Ce sont des patients qui vont faire dans les minutes ou maximum l'heure qui suit la première prise du médicament une éruption qui va être toujours une urticaire ou un angioédème. Et là, il y a évidemment un risque anaphylactique. Donc, c'est des patients qui peuvent avoir des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des diarrhées, des bronchospasmes ou, au pire, un choc anaphylactique. Donc là, c'est finalement très simple à reconnaître. Si le patient vous dit, j'ai pris mon premier comprimé, il était couvert d'urticaire, vous arrêtez l'antibiotique et dans les 24 heures, il n'y a plus rien. Là, c'est évidemment extrêmement suspect d'hypersensibilité immédiate. Et ce patient-là, il faut bien sûr l'envoyer en consultation. L'urticaire, alors c'est le plus souvent extrêmement simple à reconnaître quand c'est typique, avec ces lésions papuleuses, prurigineuses. Je vous rappelle qu'il faut toujours que ce soit mobile. Là, c'est facile sur ces diapos-là, on sait que c'est l'urticaire, mais parfois, entre un exanthème maculopapuleux débutant et une urticaire, ce n'est pas si simple. Donc, il n'y a pas de honte à entourer au crayon une petite lésion et demander au patient de regarder si 24 heures après, la lésion a changé de place ou non. Comme ça, vous êtes sûr de votre diagnostic. Si la lésion a changé de place au bout de 24 heures, c'est vraiment de l'urticaire. Je vous dis ça parce que chez l'enfant en particulier, c'est pas toujours simple. Vous voyez, chez l'enfant, ça a volontiers un aspect un petit peu annulaire et parfois un aspect ecchymotique. Et on peut au premier abord ne pas forcément penser que ça, c'est une urticaire. Donc n'hésitez pas vraiment à entourer une lésion et à regarder si les lésions sont mobiles. Si c'est une vraie allergie médicamenteuse, quand vous allez arrêter le médicament, je vous l'ai dit, la réaction va disparaître très vite, en 24 heures. En revanche, si c'est une urticaire virale, le plus souvent, elle va durer quelques jours. Donc ça aussi, a posteriori, ça peut être un argument. Si le patient a fait une urticaire finalement pendant 10 jours après la prise du médicament, alors que le médicament a été arrêté, on peut être sûr que ce n'était pas une allergie médicamenteuse. L'angioœdème, il est toujours très inquiétant. Là, je reçois en ce moment de très nombreux messages par rapport à la vaccination en me disant « mon patient a fait un œdème de Quincke ». Je vous rappelle que l'œdème, quand il est au niveau de la lèvre, du visage et qu'il n'est pas au niveau laryngé, a exactement la même valeur qu'une urticaire. C'est juste une urticaire profonde, ce n'est pas plus grave, c'est la même chose. L'œdème est embêtant quand il touche bien évidemment la filière laryngée. Et là, c'est un œdème grave. En revanche, un très bon signe qui, lui, n'inquiète pas et qui devrait inquiéter, c'est le prurit palmaire. C'est-à-dire un patient à qui vous avez donné un médicament, qui a pris le premier comprimé, qui vous dit, en fait, ça m'a gratté férocement les mains et les pieds. Et puis après, j'ai eu quelques petits boutons, puis c'est parti très rapidement. On peut se dire, oh ben là, typiquement, c'était pas grave. Alors là, inquiétez-vous, le prurit palmaire, c'est souvent le premier signe de l'anaphylaxie. Donc s'il est apparu très rapidement après la première prise, il faut que vous soyez alerté et là aussi, demander un bilan allergologique. Donc en pratique, l'hypersensibilité immédiate, c'est hyper simple. Prurit palmoplantaire, de l'urticaire qui survient tout de suite après la première prise dans l'heure. On arrête le médicament. La disparition va être très rapide au niveau des symptômes. Ces patients-là, très clairement, il faut contre-indiquer temporairement les bêta-lactamines et prévoir rapidement une consultation d'allergologie. Qu'est-ce qu'on va faire en consultation d'allergologie? On va faire un prick test. Donc on prick à travers la molécule suspecte. Si le prick est négatif à 20 minutes, on fait une intradermoréaction. Si l'intradermoréaction est négative à 20 minutes, on propose un test de réintroduction par voie orale en milieu hospitalier. Actuellement, l'idée, c'est qu'on ne laisse plus aucun patient avec une étiquette hypothétique d'allergie à l'amoxicilline. Donc on a un doute, on va jusqu'au bout. Sauf, bien sûr, un patient qui a fait un choc anaphylactique ou un bronchospasme ultra sévère. Dans ces cas-là, on réintroduira une alternative, par exemple une céphalosporine. Il faut envoyer rapidement ces patients chez l'allergologue. Alors, je sais que ce n'est pas simple d'avoir un rendez-vous rapide, mais là, il faut vraiment le mettre sur le courrier. On sait qu'un patient qui a fait une hypersensibilité immédiate, les tests ont une très bonne valeur dans les 6 premiers mois qui suivent la réaction. Au-delà de 6 mois, il y a beaucoup de tests qui ne réagissent plus. Donc vraiment, il y a un vrai bénéfice à ce qu'on les teste rapidement. Donc nous, on trie les courriers, en tout cas au CHU, et la plupart des allergologues le font. Quand on sait que c'est pour une hypersensibilité immédiate, vraiment, on leur trouve un rendez-vous dans les 6 mois. Donc normalement, l'hypersensibilité immédiate, c'est assez simple, je trouve. L'hypersensibilité retardée, c'est plus compliqué parce que ce sont des éruptions qui vont survenir quelques jours, parfois plusieurs semaines après le début du traitement, qui vont avoir, vous allez le voir, un polymorphisme sémiologique. Le plus souvent, ce sont des réactions bénignes, mais il y a quelques réactions graves. Donc là, je crois que ce qu'il faut connaître, c'est le grave. Comment reconnaître une réaction sévère? Donc la plupart du temps, vous allez voir ce genre de choses. Donc on ne peut plus, non spécifique, avec donc des rashes maculopapuleux, vous voyez, des petites lésions plus ou moins étendues, souvent avec un érythème un peu rosé, qui va durer quelques jours et disparaître spontanément. Chez l'enfant, même chose, hein, complètement non spécifique. Ça peut être autant une virose qu'une réaction médicamenteuse avec des réactions à type de rash ou d'exanthème maculopapuleux. Qu'est-ce qui est grave? Le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. Donc ça, il faut absolument le reconnaître au premier coup d'œil. Là aussi, c'est assez facile à reconnaître. Hein. Ce sont des patients extrêmement altérés, fébriles, qui ont des éruptions souvent, vous voyez, extrêmement foncées, purpuriques, violacées, qui ont des douleurs cutanées. Donc ça, un patient qui a une éruption et qui ne vous dit pas « ça me gratte », mais qui vous dit « ça me fait mal », il faut tout de suite avoir une petite alerte. Une douleur cutanée, ça veut dire qu'il y a possiblement une nécrose de l'épiderme. Et surtout, il y a une atteinte muqueuse. Dans le layeul, ça touche au moins 2 muqueuses, donc les yeux, la bouche, la muqueuse génitale ou anale. Donc là aussi, devant tout exanthème maculopapuleux qui a une atteinte muqueuse, ce n'est pas normal, ce n'est pas une réaction bénigne, il faut absolument demander un avis spécialisé au CHU. Donc, vous voyez des formes chez l'enfant. Hein, c'est finalement, une fois qu'on en a vu une fois, c'est assez stéréotypé. C'est toujours pareil, hein, des réactions très foncées, douloureuses, cette atteinte muqueuse très caractéristique. Et puis, le syndrome, donc le signe de Nikolsky, hein, qui est ce décollement de la peau lorsqu'on frotte avec le doigt. Et l'autre toxidermie grave à connaître absolument, qui est peut-être un peu plus difficile au premier abord, parce qu'on la connaît moins, c'est le Dress syndrome, ou syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse. C'est une toxidermie qui se manifeste par une atteinte cutanée souvent étendue, une érythrodermie, un œdème du visage. Donc là, c'est vraiment le signe qui doit vous alerter. Attention qu'on a un gros œdème, parfois quelques petites pustules, qui là encore vont être très altérées avec de la fièvre. Et la gravité de cette toxidermie, c'est qu'il peut y avoir une atteinte d'organes, en particulier une atteinte hépatique ou rénale, avec un risque de 10% de décès. Donc là encore, une éruption très étendue, un œdème du visage, un patient altéré, c'est pas normal, vous devez demander un avis spécialisé rapide. Donc, dans l'hypersensibilité retardée, on recherche les signes de gravité que je viens de vous décrire. S'il n'y en a pas, on peut se contenter d'arrêter le médicament, de faire une surveillance à domicile. On contre-indique temporairement les bêta-lactamines et on demande là aussi une consultation en allergologie pour ne pas méconnaître une autre cause que l'atteinte, que la cause allergologique. Quels tests on fait dans ces cas-là? On va faire des patch tests. Donc on pose en fait la molécule d'amoxicilline sur le dos, on laisse en place 48 heures et on regarde au bout de 48 heures s'il y a une réaction. Et si c'est négatif, on fait des intradermo-réactions qu'on lit également à 48 heures. Et là encore, devant toutes les toxidermies bénignes, on propose systématiquement un test de provocation orale en milieu hospitalier si les tests étaient négatifs. Alors, un cas particulier extrêmement important, parce que c'est, je pense, vraiment ce que vous voyez le plus au quotidien, c'est le cas de l'enfant. L'enfant, vous le savez, les enfants font énormément de réactions cutanées dans les contextes d'infection virale, mais souvent, il y a eu une prise d'antibiotiques au même moment. Donc là, il y a eu des recommandations désormais assez claires par rapport à l'enfant qui simplifient un petit peu les choses. Si l'enfant a fait une réaction immédiate, urticarienne, dans l'heure qui suit la première prise, on a toujours un gros doute sur une vraie allergie. Donc là, on l'envoie chez l'allergologue, on lui fait des tests et si c'est négatif, on le réintroduit. Si l'enfant a fait une réaction retardée, donc plusieurs jours après la prise, il a fait une réaction grave, bien évidemment, on l'envoie à l'hôpital et on ne se pose pas de questions. Il a fait une réaction sévère, donc l'enfant n'était pas bien, c'était une réaction très étendue, ça durait assez longtemps. Dans ces cas-là, il est quand même raisonnable de l'envoyer aussi chez l'allergologue faire des tests, qui proposera une réintroduction s'ils sont négatifs. En revanche, le cas le plus fréquent, qui sont tous ces petits exanthèmes là, qui vont durer 4-5 jours, la peau un peu granitée, l'enfant s'est un peu gratté, mais clairement on n'était pas inquiet, il y avait une éruption qui n'était pas sévère, ces enfants-là, on peut tout à fait sursoir au test allergologique. Parce que dans 99% des cas, ce ne sont pas des allergies médicamenteuses. Et principalement chez les petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 10 ans, vous pouvez vraiment être rassuré, rassurant. Vous arrêtez l'antibiotique transitoirement, mais vous revoyez l'enfant à distance, quand l'éruption a guéri. S'il va bien, on peut proposer un test de provocation directement qui consiste à donner en fait une dose poids de l'antibiotique qui avait soi-disant déclenché la crise. Donc ce test doit quand même être fait au cabinet du médecin, on ne le fait pas à domicile, et puis ça rassure les parents. Je pense vraiment que ça peut être fait au cabinet du médecin généraliste, parce que vraiment on n'est pas inquiet et il n'y a pas de réaction, ou s'il y a une réaction, ce sera le lendemain ou le surlendemain, une petite réaction bénigne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez les adresser à des allergologues ou des pédiatres allergologues qui le font à leur cabinet. Mais vraiment, voilà, tous ces enfants-là, petits enfants, moins de 10 ans, réaction peu sévère, faites d'emblée un test de provocation, vous éviterez tous ces enfants étiquetés allergiques à l'amoxicilline et qu'on revoit quand ils ont 40 ans et on ne sait plus comment les traiter. Autre point très important sur les bêta-lactamines, c'est les fameuses réactions croisées. Est-ce que quand on a une allergie suspectée à l'amoxicilline, on peut donner une céphalosporine? Alors, en fait, les bêta-lactamines, elles ont en commun d'avoir un noyau bêta-lactam, qui est le noyau carré au milieu. L'allergie au noyau bêta-lactam, elle est rarissime. On en a un à Nantes, mais c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. En revanche, souvent, les allergies croisées, elles se font en fait par les chaînes latérales, vous voyez ce qui est les R, R1, R2, qui sont en fait différents selon le type de pénicilline ou de bêta-lactamine. Et en fait, alors il est assez horrible ce tableau au premier abord, mais en fait il est génial, c'est un tableau qui est sorti assez récemment, qui permet de voir que les chaînes latérales, elles sont communes à la plupart des pénicillines et aux céphalosporines de première génération et certaines de deuxième génération. Et il y a d'autres chaînes latérales communes aux céphalosporines de troisième génération, Mais vous voyez qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes chaînes latérales entre les pénicillines et les céphalosporines de troisième génération. Ça veut dire en pratique que vous avez un patient qui a fait une histoire ancienne à l'amoxicilline, vous ne savez pas du tout ce que c'était, si c'était grave, pas grave, et vous n'avez pas d'allergologue sous la main, il faut que vous le traitiez par une bêta-lactamine. Oui, vous pouvez lui donner une céphalosporine de troisième génération ou du céphuroxime, qui est le zinate qu'on utilise quand même pas mal. Ça ne croise pas avec l'amoxicilline, ou vraiment, sauf le rare patient qui aura une allergie au noyau bêta-lactam, et là, ce sera vraiment pas de chance. De la même façon, les réactions croisées entre pénicilline et monobactam ou carbapénème sont exceptionnelles. Donc là encore, vous êtes aux urgences, vous voyez un patient qui a fait une histoire ancienne à l'amoxicilline, il a une infection sévère, sans problème, vous pouvez lui donner du thienam ou du monobactam. Donc en conclusion, je crois que c'est extrêmement important de noter dans le dossier du patient la description de la réaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de photos que prennent les parents ou les adultes et c'est très utile a posteriori pour reclasser la réaction cutanée. Toujours chercher les signes de gravité. Donc dans les réactions immédiates, c'est vraiment l'œdème laryngé, le bronchospasme, le choc anaphylactique. Dans les réactions retardées, l'atteinte muqueuse, l'altération tête générale, l'œdème du visage. Bien noter le délai de survenue entre la première prise du médicament et le début de la réaction. Et s'il vous plaît, le nom précis de la molécule, parce que très souvent, on ne sait pas en fait le médicament qu'a pris le patient. Et donc pour les tests, c'est quand même un peu plus compliqué. Toujours demander une consulte allergologique rapide quand vous avez un doute pour que voilà, le diagnostic soit fait et qu'on puisse vraiment dire au patient s'il est allergique ou pas allergique. Et le but également, c'est qu'à la fin, on puisse dire au patient « Vous êtes allergique à l'amoxicilline, mais on peut autoriser d'autres bêta-lactamines, ce qui permet à tout patient de pouvoir être soigné par au moins une bêta-lactamine. » Je vous remercie.
Merci Claire de cette présentation. Il y a plusieurs questions. L'une peut-être sur bon, les tableaux passent pas forcément très bien à l'écran. En particulier le premier tableau différenciant hypersensibilité immédiate et retardée. Une des questions c'est quel délai, à partir de quand on parle d'une hypersensibilité retardée?
Alors le délai classique, alors c'est compliqué parce qu'il y a plein de délais. Le délai classique, c'est à peu près une semaine, mais ça peut être 3-4 jours, ça peut être jusqu'à plusieurs semaines. Le délai classique, c'est une petite semaine, 4-5 jours. Mais globalement, le retardé, c'est tout ce qui est plus de 24-48 heures. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de délai fixe et que c'est compliqué.
Notre question, à partir de quel âge on peut faire des bilans allergo?
Il n'y a pas d'âge. Chez les tout-petits, on fait chez les bébés, chez les enfants, il n'y a pas d'âge. On fait pas, globalement, on peut faire à tout le monde. On évite d'en faire chez la femme enceinte. C'est la seule, sauf si vraiment il y a une indication majeure, mais évidemment, on n'a pas envie de créer un choc chez une femme enceinte. Et sinon, on peut faire à tout âge chez n'importe qui.
C'est ça, moi j'ai compris avec la réserve qu'avant 10 ans, on a quand même un œil critique sur l'éruption qu'on voit apparaître, mais concrètement, il n'y a pas de contre-indication à adresser les petits-enfants.
Ah non, bien sûr que non. Il faut le faire, hein, vraiment. Un petit enfant qui a fait une réaction d'urticaire à une heure de la prise de son médicament, il faut le tester dans les 6 mois. Donc même s'il a 2 ans, vous avez un doute, on le teste dans les 6 mois. C'est vraiment, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. Vraiment, toutes les réactions bénignes, on s'en fiche, vous réintroduisez, mais toutes les réactions suspectes, vraiment, faites-les tester rapidement.
Une question sur le test de provocation qu'on se propose de faire du coup en cabinet de médecine générale. On les garde combien de temps?
Alors, on les garde au moins 1 heure parce que, comme vous l'avez vu, la réaction grave, c'est dans la première heure. Donc, si au bout d'une heure, ils n'ont pas réagi, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'allergie immédiate. Et après, donc, vous pouvez les laisser rentrer à domicile en demandant bien aux parents de surveiller la peau pendant en fait 4-5 jours. Et puis, s'il ne se passe rien, ben, il ne se passe rien. Il n'est pas allergique.
Certaines remarques sont sur... les délais d'accès, alors moi je le repose, alors même que j'ai compris qu'il y a un élément de réponse. On nous fait souvent état d'un délai d'un an pour consulter au CHU. Du coup, comment on s'organise alors qu'il faut les voir dans les 6 mois?
Alors en fait, c'est pas vrai ce délai d'un an. En fait, on trie toutes les demandes. Quand elles arrivent, on trie les demandes et en fait, en fonction justement du type de demande, dès qu'on voit que c'est une allergie immédiate, on sait qu'il faut les tester dans les 6 mois et on se débrouille pour les voir dans les 6 mois. Donc non, on peut les tester bien avant. Donc, non, c'est pas un an. On est plutôt en général à 6 mois, d'ailleurs, pour tous les patients. Et quand il faut les voir vite, on les voit vite.
Peut-être une dernière question sur le. Beaucoup, en fait, de ce que tu présentais concerne l'analyse en fait, d'une éruption qu'on voit devant nous. En fait, beaucoup de situations sont des. Semble-t-il, on nous rapporte des allergies anciennes, parfois de 30 ou 40 ans, qui ont été respectées jusque-là. Est-ce que toutes ces situations, du coup, doivent être adressées à l'allergo pour clarifier jusqu'au bout?
Ben moi, je pense que oui. Alors, ça, c'est notre problème, hein. On en reçoit énormément de demandes tous les jours, mais je pense que c'est une bonne chose quand même de clarifier cette situation parce que c'est une vraie perte de chance pour les patients d'être étiquetés allergiques à l'amoxicilline. Donc, mon rêve serait qu'un jour, tous les patients avec cette fausse étiquette puissent être testés et réintroduits. Après, bon, si les patients ils ont 90 ans, parfois on sursoit, hein, mais on essaie, oui, dans la mesure du possible. Et tous les jeunes que vous voyez qui ont 20, 30, 40 ans, vraiment, il faut les envoyer. Il ne faut pas qu'ils restent avec cette étiquette d'allergique toute leur vie, hein.
Y a-t-il pour finir un contact enfin, pour la plateforme du CHU en particulier à utiliser?
Il y a une boîte mail qui est plateforme.allergologie@chu-nantes.fr qu'on pourra peut-être vous transmettre. Donc l'idéal, c'est d'envoyer un mail ou un courrier.
Merci. On va poursuivre sur les présentations qui suivent. Merci beaucoup. La présentation suivante est celle de Marc-Antoine Pistorius sur acrocyanose, engelure, les reconnaître, quand explorer. Deux questions sur quel matériel doit-on avoir au cabinet, dans un cabinet, au regard des problématiques d'allergie. Je pense que la question vient aussi suite à la proposition de faire un test de provocation par voie orale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut avoir au cabinet?
Un antihistaminique et un stylo d'adrénaline.
Très bien.
Tout simplement. Pas de corticoïdes. Il n'y a pas de place pour les corticoïdes dans l'allergie immédiate, hein, dans les réactions graves. Hein. C'est vraiment réaction bénigne antihistaminique, bronchospasme, œdème laryngé, choc anaphylactique, adré.
Deuxième question, un peu du même ordre, toujours sur l'allergie à la pénicilline. Quelle place pour les antihistaminiques? Je le comprends aussi peut-être comme dans toutes ces propositions où on postule qu'il ne s'agit pas d'une allergie vraie, où on propose de réintroduire sereinement après une présentation qui est une allergie, une hypersensibilité retardée. Ou est-ce que c'est des patients, par exemple, qu'on mettrait sous antihistaminique au moment où on represcrit de la pénicilline?
Alors non, il n'y a pas d'indication. L'unique cas, ce serait les patients qui font de l'urticaire chronique. Donc, ils font de l'urticaire très fréquemment, dans des contextes soit spontanés, soit dans des prises de multiples médicaments. Ces patients-là, de temps en temps, en effet, on les met sous antihistaminique et on réintroduit le médicament pour voir si c'est juste leur urticaire chronique qui les embête. Je ne sais pas si je suis claire. Mais c'est uniquement le cas de l'urticaire chronique où ça peut être intéressant. Dans tous les autres cas, il vaut mieux ne pas donner de médicament du tout. Comme ça, on est sûr du rôle du médicament ou pas.
Dernière question qui n'est pas directement sur la pénicilline, mais effectivement, moi-même, et d'ailleurs on en parlait avant en arrivant dans la salle, on est en pleine période de vaccination contre la Covid. Les questions qui se posent, que ce soit dans la population, et puis quand même chez beaucoup de soignants qui participent à cette vaccination, c'est quelle est la réalité du retour qu'on a sur des phénomènes allergiques. Au cabinet, on vaccine AstraZeneca, dans les centres de vaccination, les médecins participent à la vaccination, soit en Pfizer. Par ailleurs.
Donc en effet, je pense que c'est un sujet d'actualité qui est important qu'on y consacre 3 minutes. C'est vrai que quand le vaccin Pfizer a débuté, il y a eu des cas d'anaphylaxie sévère. Donc au tout début, et ça a été remédié dans les médias, où on nous a dit qu'il ne fallait pas vacciner les gens allergiques ou qui avaient fait des allergies graves. Donc vous imaginez le nombre de mails qu'on a reçus de tous les patients qui avaient fait des allergies en disant est-ce qu'on peut les vacciner, pas les vacciner. Globalement, le vaccin ARN Pfizer contient dans ses excipients du polyéthylène glycol, qui en effet, dans certains cas, peut donner des allergies sévères. Cependant, l'allergie au polyéthylène glycol, elle est très rare dans la population générale. Donc le message, c'est si vous avez un patient allergique connu au polyéthylène glycol, bien évidemment, il ne faut pas le vacciner avec le Pfizer. Si votre patient a fait des allergies graves, donc j'entends par grave un choc anaphylactique, un œdème laryngé, un bronchospasme sévère, donc bref, un patient qui a nécessité de l'adrénaline ou une hospitalisation. Dans ces cas-là, si ce patient a fait des allergies à des médicaments non identifiés, il est raisonnable, en effet, de nous les confier. On a ouvert des créneaux d'urgence, on voit ces patients-là, on les teste au polyéthylène glycol et éventuellement, on les vaccine en allergologie sous surveillance. Mais ça doit, on en a vu depuis le début deux, en fait, ça doit être exceptionnel. Tous vos patients qui ont fait une allergie à un produit de contraste iodé, à de l'amoxicilline, même grave, ceux-là, vous les vaccinez, il n'y a aucun problème. Vous les gardez peut-être en surveillance un peu plus longtemps pour les rassurer. Donc un peu plus longtemps, c'est jusqu'à 1 heure, parce qu'on sait que les allergies immédiates graves, c'est dans l'heure. Donc au-delà d'une heure, vous êtes tranquille. Mais ces patients-là, il faut les vacciner. Il y a évidemment beaucoup plus de bénéfices à les vacciner qu'à ne pas les vacciner. Concernant le vaccin AstraZeneca, lui ne contient pas de polyéthylène glycol. Pour l'instant, il y a très peu de cas d'allergie à ce vaccin qui ont été décrites. Lui, son excipient, c'est le polysorbate 80. Le polysorbate 80, il y en a dans plein de choses. En fait, c'est un excipient qui est contenu dans énormément de médicaments. Donc là, c'est pareil. On ne va pas commencer à paniquer devant tous les patients qui ont fait une allergie à un médicament qui contient du polysorbate 80. Ce serait beaucoup, beaucoup de patients. Les retours de vraie vie, il n'y a quasiment pas d'allergie. Et pour vous rassurer, par exemple, dans le Prevnar 13, qui est un vaccin que vous avez fait plein de fois sans vous poser aucune question, parce qu'on ne demandait pas si les patients étaient allergiques, il y a le polysorbate 80. Et ce vaccin ne pose aucun problème. Donc vraiment, pour l'AstraZeneca au cabinet, l'unique cas où peut-être vous pouvez vous interroger, c'est vraiment le patient qui a fait un choc anaphylactique, une allergie hyper grave à un médicament vraiment non identifié. Et ceux-là, vous pouvez nous les adresser. Mais tous les autres patients, s'il vous plaît, ne vous posez pas de questions et vaccinez, il n'y aura pas de souci. Et le Moderna, pour venir au Moderna, lui, il a de la trométhamine, qui est en fait assez proche du PEG. Donc, c'est un peu la même problématique que le vaccin Pfizer. Et dernière chose quand même pour le PEG, c'est le macrogol. Donc, tous vos patients qui ont fait des réactions graves, mais qui ont eu une coloscopie ou qui prennent du macrogol, du Forlax, sans problème, eh ben, on est tranquille. Voilà, ils ne sont pas allergiques.
Merci. En l'absence de questions au-delà et pour respecter le timing, je vous propose qu'on fasse la pause. Alors, la pause était prévue sur un quart d'heure dans un contexte où des fois on se trouve ici en présentiel. On peut peut-être proposer qu'elle soit légèrement plus courte, qu'on se retrouve, il est écart à ma montre, qu'on se retrouve à 20, le temps que chacun aille chercher un café ou le nécessaire à proximité de son ordinateur. Et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de ce webinaire.
Alors, nous allons commencer cette présentation. Alors, je ne sais pas si la présentation n'est pas lancée, je ne crois pas. Donc, on va parler de rançons cicatricielles sur le visage des chirurgies dans le cadre des carcinomes cutanés. En tout cas, des tumeurs cutanées de la face. Voilà, le diaporama est lancé. Et donc, je vais pouvoir commencer directement mon introduction. Donc, plusieurs notions avant de savoir, entre guillemets, ou en tout cas envisager la cicatrice qu'aura un patient après l'exérèse d'une tumeur cutanée du visage. Le premier message que je voulais passer, c'était le fait qu'une tumeur était en trois dimensions et qu'on n'en voyait finalement qu'une partie. Alors là, la photo de l'iceberg est assez parlante, mais certaines tumeurs qui peuvent avoir le même aspect extérieur, l'aspect qu'on va voir, n'auront pas le même volume en profondeur et pourront parfois nécessiter des exérèses transfixiantes, notamment au niveau du nez, des lèvres, des pommettes. Et donc, la rançon cicatricielle sera bien évidemment très différente en fonction de l'envahissement en profondeur. Donc face à des tumeurs adhérentes au plan profond, toujours avoir à l'idée qu'une imagerie va être nécessaire avant la résection, un scanner, voire une IRM en fonction des localisations. Et donc, si l'envahissement en profondeur est important, la rançon cicatricielle sera bien évidemment plus lourde. Alors, vous le savez, au niveau du visage, on a plusieurs sous-unités esthétiques. Et dans chacune des sous-unités, nous avons des laxités cutanées différentes avec des possibilités de reconstruction qui vont être très différentes. Il y a aussi le sous-sol sous la peau. Sous la peau, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Du cartilage au niveau du nez notamment, des os également au niveau cutané nasal, et puis de la muqueuse au niveau jugal par exemple. Et donc, si l'exérèse va en profondeur, on devra s'adapter aussi en termes de reconstruction au sous-sol. Bien évidemment, point primordial, ce sont les marges d'exérèse. Je ne reviens pas là-dessus, mais effectivement, vous le savez, lorsqu'un mélanome est présent avec un bracelet important, les exérèses seront élargies. Les carcinomes épidermoïdes nécessiteront également des exérèses relativement élargies latéralement, mais aussi en profondeur, alors que les carcinomes basocellulaires auront des règles d'exérèse, des marges d'exérèse beaucoup plus faibles que les autres tumeurs. Donc là aussi, en fonction d'une lésion, il faut savoir quel type de lésion c'est pour savoir quel type d'importance d'exérèse cutanée il va falloir apporter aux patients. Et puis quelques règles un peu générales au niveau de reconstruction, au niveau du visage, alors qui ne sont pas toujours valables, mais qui sont une généralité. Grosso modo, si la perte de substance va être inférieure à 1 cm, une fermeture directe en fuseau pourrait être proposée. Pour les pertes de substance entre 1 et 2 cm, un lambeau local sera proposé. Et puis, pour les pertes de substance qui vont être plus volumineuses, la greffe de peau peut être une solution, voire des lambeaux à distance, des lambeaux libres, et qui resteront quand même vraiment plus haut en marge, avec des séquelles cicatricielles plus importantes. Hein, et finalement, plus la lésion va être importante et plus la séquelle cicatricielle sera importante. Alors maintenant, on va passer à des exemples. Hein, donc, on va balayer assez vite. Mais ici, par exemple, une exérèse superficielle de moins d'un centimètre, un fuseau voilà, sur l'arête nasale avec une cicatrice à distance hein, à 3 mois qui est tout à fait minime. Une autre cicatrice hein, au niveau frontal, fermée en fuseau, là, chez un enfant. Donc, là aussi, hein, ce qui est important, c'est l'âge. Hein, on sait bien que la cicatrisation ne sera pas la même. Et chez les peaux jeunes, on va avoir des cicatrices plus inflammatoires, hein, plus visibles. Alors que chez les peaux plus âgées, les cicatrices seront moins visibles plus souvent. Ici, vous voyez un carcinome basocellulaire au niveau de la tempe chez une personne âgée avec une fermeture avec un petit lambeau local hein, de rotation jugale et une cicatrice à 3 mois qui est tout à fait dissimulée et acceptable. Ici, une autre lésion, un carcinome basocellulaire, vous voyez cet aspect nodulaire hein, bien caractéristique avec ici une reconstruction avec un lambeau bifolié. Donc, vous voyez finalement, après l'exérèse, hein, faite sous anesthésie locale, une cicatrice relativement étendue par rapport à la lésion initiale, donc lésion avec des marges de sécurité hein, déjà. C'est un carcinome basocellulaire, on est autour de 4-5 mm autour de la lésion. Et vous voyez cette fermeture donc, par lambeau bifolié avec quand même un décollement assez important. À distance, on est à 1 an, vous voyez que la cicatrice est quand même un peu visible, mais relativement discrète grâce au lambeau local. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un lambeau local prend la peau qui est juste à côté de la perte de substance avec une coloration cutanée qui va être tout à fait la même que celle que la peau remplacée. Une autre lésion ici, vous voyez un petit carcinome au niveau du scalp. Le scalp est une région qui est peu donneuse, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on peut très difficilement faire des exérèses avec reconstruction par lambeau local. Vous voyez ici un lambeau local, lambeau en H, avec un aspect un petit peu quand même de fermeture en tension, mais heureusement, cicatrisation qui va être tout à fait raisonnable pardon, dans cette zone-là. Une autre paire de substances superficielles, donc là on est entre 1 et 2 cm toujours. Ici une personne âgée, vous voyez, c'est une lésion tout à fait superficielle, donc on fait une résection non transfixiante au niveau de la lèvre, et on peut, là aussi un lambeau bifolié, fermer la paire de substances avec un résultat acceptable à 3 mois. Ici, on va aborder les paires de substances de plus de 2 cm. Donc deux lésions, et lorsqu'on enlève les lésions avec les marges de sécurité, on se retrouve avec une paire de substances étendue au niveau du nez. Donc là, on a plusieurs procédés de reconstruction. Un des procédés peut être celui-ci, c'est-à-dire la greffe de peau. Ici, un patient qui a une greffe de peau totale sur le nez avec voilà, un résultat à 6 mois qui donne un aspect atrophique hein, au niveau de la peau, nasale, mais relativement acceptable malgré tout. Mais on voit que quand même deux lésions qui étaient a priori pas si étendues que ça, mais finalement, une fois qu'on prend les marges d'exérèse, on se retrouve avec une perte de substance importante. Une autre lésion au niveau jugal, un homme jeune, là c'est un carcinome épidermoïde, avec les marges de sécurité, on se retrouve avec une perte de substance qui est plus de 2 cm, ou qui avoisine 2 cm, 2 cm et demi. Et donc là, un lambeau de rotation jugale, vous voyez un aspect, une rançon cicatricielle à 8 mois qui est tout à fait acceptable, en dehors ici hein, d'une petite oreille. Hein, lors de la reconstruction, il aurait fallu faire une exérèse cutanée un peu plus importante que la paire de substance, c'est-à-dire enlever de la peau saine, un peu plus de peau saine ici, à la partie inférieure de la joue, de la paire de substance, pardon, pour avoir une reconstruction. Ça peut se retoucher sans difficulté à distance chez le patient. Paire de substance encore un peu plus étendue. Ici, un patient qui est un patient greffé rénal, qui a un carcinome épidermoïde de la joue, et avec une exérèse, vous voyez, étendue. Là, on avait proposé ce lambeau de reconstruction dit en LLL, et qui donne des rançons cicatricielles assez visibles, assez importantes quand même. Vous voyez un résultat à 3 semaines, là, qui est acceptable. Alors, qu'est-ce qui est acceptable? C'est toujours difficile à dire. C'est le patient qui doit nous le dire, s'il l'accepte ou pas. En tout cas, On a quand même dans ce lambeau le fait qu'on a une perte ici de la pilosité, hein, vu que c'est la peau cervicale qui est remontée au niveau jugal. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter à ce niveau-là. L'autre possibilité aurait pu être par exemple une greffe de peau, mais les greffes de peau donnent des résultats esthétiques qui sont quand même en général moins bons, plus atrophiques, avec une coloration cutanée qui est souvent moins bonne que la peau prise juste à côté de la perte de substance. Alors maintenant, la question des pertes de substances transfixiantes. Vous voyez ici une patiente qui a une lésion, qui a un carcinome épidermoïde au niveau de la pommette, au niveau de la paupière également. Et puis finalement, là, un scanner est nécessaire car la lésion est bien fixée en profondeur et on retrouve sur le scanner un envahissement au niveau osseux. Donc l'exérèse nécessite l'ablation de l'os maxillaire, mais également du plancher de l'orbite ici. Donc reconstruction avec un grand lambeau de rotation jugale, dit lambeau de Clark, et voilà cette fermeture assez caractéristique de ces lambeaux de décollement cervico-jugal. Le résultat à distance, donc il y avait aussi une reconstruction de la paupière, donc une paupière qui est plus rigide avec un larmoiement chez cette patiente âgée, et cet aspect cicatriciel qui est quand même visible. Autre paire de substances transfixiantes au niveau de la lèvre inférieure. Ici, un patient qui présente un carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure, patient jeune, tabagique, avec une exposition au soleil car il est agriculteur. Et vous voyez la nécessité donc d'exérèse avec des marges de sécurité, exérèse transfixiante, ici, il n'y a pas le choix, au niveau de la lèvre inférieure. Reconstruction par un lambeau hétérolabial, donc la lèvre supérieure vient reconstruire la lèvre inférieure, avec un résultat esthétique dans les mois qui suivent, qui montre deux cicatrices, une au niveau de la lèvre supérieure, une au niveau de la lèvre inférieure, mais ici, le côté fonctionnel est respecté avec des lèvres qui ne bavent pas lors de l'alimentation ou de la déglutition. Autre paire de substances transfixantes, la pointe du nez, ici c'est un mélanome, donc qui nécessite une exérèse large et latéralement et en profondeur, avec une reconstruction de type rhinopoïèse avec deux temps essentiellement chirurgicaux. Deux temps chirurgicaux, ici le premier temps d'exérèse et reconstruction avec, vous voyez, la reconstruction du cartilage alaire avec la conque, donc l'oreille qui reconstruit le nez. Dans le même temps, on met en place la peau, donc un grand lambeau frontal. Et à distance, à un an chez ce patient, donc il faut du temps pour que l'ensemble cicatrise, aussi bien la reconstruction du nez que la perte de substance frontale qui est créée par le lambeau. Et vous voyez qu'à distance, on a ici un aspect qui est acceptable chez ce patient. Alors, c'est un patient qui avait une pointe, un nez globuleux, donc ce lambeau est assez épais et donc reconstruit mieux finalement les pointes globuleuses. Donc au total, les éléments qui permettent d'envisager la rançon cicatricielle sont assez nombreux. Hein. Bien sûr, la localisation de la lésion, sa taille, son histologie et donc les marges d'exérèse qu'il faut envisager. Est-ce que l'exérèse est transfixiante ou non? Et puis, les capacités de cicatrisation cutanée liées à l'âge notamment. Voilà, donc juste un petit résumé avant-après donc sur les superficielles pardon, ou transfixiants. Ici, donc le nez, petite lésion superficielle, voilà la cicatrice à un an. Et puis là, rançon cicatricielle plus importante avec le front, hein, le lambeau frontal et puis la pointe plus volumineuse. Ici, l'ajout, voilà, on a du superficiel et du transfixiant. Donc superficiel, c'est beaucoup plus harmonieux. Le transfixiant, bien évidemment, il y a une dépression, c'est cicatriciellement plus difficile. Au niveau de la lèvre, le superficiel se fond là aussi beaucoup plus, alors que le transfixion, on verra des cicatrices plus importantes. Ici, bouche ouverte, on voit un petit peu les brides qui peuvent exister. Voilà, je vous remercie pour votre attention, bien sûr, derrière votre écran. Et puis, je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a.
Merci beaucoup pour cet exposé, alors qui suscite des réactions d'abord d'admiration et d'effroi pour certains, parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des images comme ça. On peut les rassurer, on s'habitue aux aspects techniques, enfin vous nous direz, mais je pense que vous ne devez plus être très ému de voir ces images. Donc ça, c'était les commentaires qu'on retrouve un peu. Une question qui se pose, en dehors de la rançon esthétique et de la réussite d'un lambeau, quelle est la complication la plus fréquente à laquelle vous êtes exposé?
Alors, les complications sont assez classiques pour des complications en chirurgie, c'est-à-dire on a des hématomes potentiellement, hein, donc avec des risques de parfois de nécrose des lambeaux hein, sous un hématome. Donc, très vigilant, notamment chez les patients âgés qui ont souvent des prises d'anticoagulants, d'antiagrégants plaquettaires. Donc ça, l'hématome, il faut être vigilant, hein, ça peut survenir. Les surinfections, en général, les surinfections surviennent quand il y a un hématome, hein, c'est souvent lié. Les nécroses de lambeaux au niveau du visage, heureusement, lambeaux locaux, je parle, hein, c'est heureusement assez rare, sauf peut-être sur des terrains particuliers, notamment les patients qui ont une irradiation préalable. Et donc là, il faut être beaucoup plus, faut faire attention à ces patients qui ont été irradiés avec des risques de nécrose, hein, des lambeaux quand même un peu plus importants.
D'accord. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans les traitements associés, les anticoagulants ou les antiagrégants plaquettaires ?
Bonne question. Le plus souvent, les antiagrégants plaquettaires. Les anticoagulants, on peut faire des relais si nécessaire. Les antiagrégants, c'est plus compliqué. Donc, on peut les arrêter quelques jours avant, mais à chaque fois, c'est à rediscuter avec le patient, avec le médecin traitant souvent, ou avec parfois le cardiologue. Quand c'est une anesthésie générale, on en rediscute également avec les anesthésistes, hein, qui voient le patient avant. Quand on a une anesthésie locale, on discute directement avec les médecins, le médecin traitant le plus souvent qui va ou pas valider le fait qu'on puisse arrêter un traitement anticoagulant ou antiagrégant.
Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a traité les principales questions pour un exposé qui était assez impressionnant pour l'auditoire, visiblement. Merci Florent.
Merci à vous.
Et donc je vais passer la parole à Véronique Pistorius, donc, qui est dermatologue, pour vous parler d'un sujet là aussi d'actualité, dans la mesure où, comme vous le savez, l'accès aux dermatologues est difficile. Donc le médecin généraliste est souvent se situe en premier recours dans la gestion de certaines dermatoses, et il est intéressant qu'il puisse aussi effectuer des gestes simples de dermatologie, et c'est l'intérêt de ce type d'exposé, donc de resituer la place du médecin généraliste dans le premier recours. Deuxième partie qui est consacrée aux actualités. Alors comme vous le verrez ou comme vous l'avez vu sur le programme, c'est extrêmement varié, c'était la volonté de cette session, de parler d'éléments très différents. Et on va commencer par aborder la polémique sur la texturation des implants mammaires. C'était l'occasion de faire un point par quelqu'un qui connaît la question. Donc, on a demandé à Pierre Perrault, qui est plasticien, de bien vouloir nous parler de cette polémique qui reste d'actualité. Il n'y a pas que la Covid. Donc, il y a d'autres sujets d'actualité. Donc, on va en profiter pour parler de bien d'autres choses. C'était aussi le but de cette session d'actualité. Merci Pierre, donc, pour ton exposé.
Bonjour à tous. Donc, on va parler de quelque chose d'assez spécifique en chirurgie plastique, mais il faut savoir qu'en France, il y a 500 000 femmes porteuses d'implants mammaires, donc dans la patientèle de tout médecin généraliste. On peut avoir des questions, et on a entendu parler de problématiques autour de la texturation des implants. C'était maintenant il y a 2 ans, alors c'était juste avant la crise des Gilets jaunes, donc après l'actualité s'est recentrée sur d'autres sujets, après il y a eu le Covid. Donc on en a parlé un peu moins, mais on verra qu'il y a quand même des questions de nos patientes. Donc, très schématiquement, les implants mammaires peuvent être dits texturés, c'est-à-dire le cas de l'implant de gauche, c'est-à-dire granuleux à sa surface, ou ils peuvent être lisses, comme le cas de l'implant de droite à sa surface. En France, jusqu'à très récemment, 90% des implants posés étaient texturés et 10% étaient lisses. Le ratio s'est inversé depuis 2 ans, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Une nouvelle pathologie a été décrite pour la première fois en 1997 qui s'appelle lymphome anaplasique à grandes cellules liées aux implants mammaires, donc LAGC-AIM, c'est-à-dire associé à des implants mammaires. En 2008, pour la première fois, a été rapportée l'association entre l'apparition de cette maladie et le fait que la patiente était porteuse d'implants mammaires. La FDA a reconnu en 2011 qu'il y avait un lien entre les implants mammaires et l'apparition de cette pathologie, qui n'est donc observée que chez des patientes porteuses d'implants mammaires. Un registre américain a été créé en 2012. Une première publication dans une revue américaine a rapporté 173 cas en 2015. L'OMS en 2016 a également reconnu l'association entre cette pathologie et le port d'implants mammaires. En 2017, on était à 359 cas mondiaux rapportés. Et en 2019, à 656 cas mondiaux rapportés, confirmés ou fortement suspectés. Donc cette première publication, pour la première fois par l'équipe de Brody en 2015, démontrait un lien entre l'apparition de cette pathologie et les implants mammaires, avec pour la première fois la mise en cause de cette texture, c'est-à-dire de la granulation de l'enveloppe des implants. 173 cas étaient rapportés à ce moment-là, avec une incidence donc estimée à 3 cas pour 100 millions aux USA au moment de cette publication, en sachant que les Américains posaient déjà de façon assez importante des implants lisses par des habitudes de continents, l'Europe posant plutôt des implants texturés. Donc, en France, depuis 2011, on constate une augmentation significative des cas de cette pathologie qui reste exceptionnelle puisque à ce jour, au 1er janvier 2021, 78 cas ont été rapportés à l'ANSM en France. Ce qu'on retrouve, c'est que la plupart des patientes qui présentent cette pathologie sont porteuses d'un implant mammaire dit macro-texturé, c'est-à-dire avec une granulation importante à la surface de l'implant. On peut avoir des granulations fines comme du sel fin et des granulations épaisses comme du gros sel. Donc, c'est plutôt ces patientes-là qui peuvent être concernées. Dans 30% des cas, la texturation n'était pas connue, mais ça veut dire qu'elles étaient peut-être des macro-textures aussi. Donc, elles sont quand même surreprésentées dans les cas de ces patientes. Parmi ces cas, on a observé 58% de patientes porteuses d'un implant spécifique d'une marque américaine qui est Allergan avec une texture particulière qui s'appelle la texture Biocell, qui est une macro-texture très importante. Et l'ANSM a décidé en novembre 2018 de suspendre la commercialisation de cet implant-là à cause de la surreprésentation de cette pathologie. Donc la macro-texturation est un des facteurs à l'origine de cette inflammation chronique qui peut entraîner la survenue d'un lymphome anaplasique à grandes cellules. Donc, il y a plusieurs théories de l'étiopathogénie de cette pathologie. C'est probablement multifactoriel. Ce qu'on constate, c'est que c'est des patientes porteuses d'implants mammaires depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas à 3 mois post-opératoire que ça survient. C'est généralement après une dizaine d'années de prothèses mammaires et parfois des changements itératifs. Trois théories principales s'affrontent. Mécanique, par des frottements avec les enveloppes d'implants. Infectieuse, par la constitution de ce qu'on appelle un biofilm à la surface de l'enveloppe, ou avec des prédispositions génétiques ou immunitaires qui pourraient faire entraîner une stimulation antigénique chronique. Il y a également un rôle moins défini des particules de silice sur les enveloppes des implants. Donc les décisions, c'est qu'il y a une réunion d'experts aux Pays-Bas qui a décidé en novembre 2018 de se poser des questions et on a démontré qu'il y a une autre catégorie de prothèses en polyuréthane qui aurait un risque équivalent à ces implants macro-texturés. C'est des implants qui sont peu posés en France. Au congrès de chirurgie plastique du mois de novembre 2018, on en a beaucoup discuté. En gros, on est resté sur un statu quo de mettre un registre en place, de rester prudent sur les implants macro-texturés. Sauf que quelques jours après, il y a eu une émission télé d'Élise Lucet, Cache Investigation, et que ça a précipité un petit peu l'accélération du phénomène, Élise Lucet étant présente au congrès de chirurgie plastique, cherchant des informations. Donc, quelle est la caractéristique clinique de ces lymphomes? C'est chez les patientes plutôt âgées, moitié-moitié entre de la reconstruction du sein ou de l'esthétique, et un implant qui est plutôt en silicone, plutôt texturé, de façon très majoritaire, et aussi majoritairement sur une rupture de prothèse. Donc le délai moyen de survenue, c'est à peu près une dizaine d'années après la pose de ces implants. Les circonstances d'apparition sont plutôt un épanchement, donc un sein qui va gonfler de volume avec du liquide plutôt que l'apparition d'une masse, comme on peut le constater plutôt dans un cancer du sein classique. Ça peut être associé à des signes beaucoup plus subjectifs comme un érythème, des démangeaisons. Et dans l'immense majorité des cas, c'est découvert sur un stade peu avancé. Les lymphomes à stade très évolué sont absolument exceptionnels. Donc pour vous, les signes cliniques finalement qui peuvent faire appel, aujourd'hui devant tout épanchement périprothétique, toute patiente qui a une modification de son résultat de prothèse, a fortiori quand c'est unilatéral, c'est une patiente porteuse de façon bilatérale d'implant, donc plutôt dans un contexte esthétique, il faut qu'elle consulte dans le contexte actuel et qu'elle essaye de venir voir son chirurgien avec la carte des implants mammaires dont elle dispose. Donc l'augmentation de volume est également le deuxième signe, mais c'est souvent lié à un épanchement périprothétique, donc c'est vraiment le signe d'appel majeur. Qu'est-ce qu'on doit faire comme imagerie si on a une suspicion? Essentiellement, une échographie en première intention pour chercher cet épanchement. Et éventuellement, en deuxième intention, une imagerie par résonance magnétique plutôt prescrite par le chirurgien. Donc voilà des exemples d'imagerie qui sont en IRM pathognomonique de l'apparition de cette pathologie. La prise en charge, elle est très codifiée, même si on l'a vu, c'est exceptionnel. 78 patientes aujourd'hui porteuses pour 500 000 femmes porteuses de prothèses mammaires. Donc, il faut quand même rester raisonnable. Il faut faire une cytologie de cet épanchement avec une lecture par un réseau spécifique d'anatomopathologique qui est le réseau lymphopathe à Créteil, à Paris. Si c'est confirmé, il faut le signaler comme cas à l'ANSM et il faut généralement l'orienter vers un service d'hématologie pour un bilan d'extension de ce lymphome, même si on verra que c'est rarement une problématique comme un lymphome d'hématologie classique. Le dossier est ensuite discuté à RCP national. Généralement, la prise en charge chirurgicale et la réalisation du retrait de la prothèse avec une capsulectomie, c'est-à-dire retirer toute la membrane qui s'est constituée autour de la prothèse. Généralement, ça suffit à traiter notre patiente. Si la capsulectomie n'est pas réalisable ou que la maladie est plus étendue, ben on va l'envoyer à l'hématologue qui va faire généralement un traitement un peu par assimilation à des lymphomes, mais ce n'est pas très bien codifié aujourd'hui. Donc la prise en charge chirurgicale, c'est de retirer la prothèse avec la totalité de la membrane qu'a créée le corps autour. Généralement, il n'y a pas d'obligation d'explanter la prothèse de l'autre côté, mais pour des raisons de symétrie généralement et d'inquiétude de la patiente, il est recommandé de le faire. Et il faut éviter de les réimplanter dans le même temps opératoire avant d'avoir des résultats histologiques complets. La prise en charge complémentaire, donc si c'est une maladie localisée, c'est uniquement chirurgical, il n'y a pas de traitement complémentaire. Il y a une surveillance alternée par un oncologue et par le chirurgien, comme tous les autres lymphomes. Et si la maladie est plus étendue, cas absolument exceptionnel, ou que la capsulectomie n'est pas réalisable, on va être sur une RCP nationale avec un traitement classique, oncologique, chimiothérapie, radiothérapie, mais avec un niveau de preuve très faible, étant donné le faible effectif, et c'est vraiment une extrapolation par rapport à l'hématologie. En France, la NSM a décidé en avril 2019, donc sous la pression objectivement des journalistes, hein, d'une certaine manière aussi, d'aller au-delà des recommandations des sociétés savantes et de retirer du marché tous les implants macro-texturés, tous les implants en polyuréthane. Donc ça nous laisse à notre disposition les implants lisses et les implants micro-texturés, donc avec une granulation beaucoup plus fine. Par contre, n'a pas été recommandé d'explanter de façon préventive toutes nos patientes. Donc, depuis la médiatisation de cette pathologie au CHU de Nantes, finalement, on a eu peu de consultations pour avis sur ce risque-là. Il n'y a pas eu de demande d'explantation préventive de la part des patientes parce qu'on les a rassurées. Il n'y a pas eu de perte de confiance sur la mise en place d'implants en première intention. Donc, qu'est-ce qu'on s'est modifié dans nos attitudes dans le service, que ce soit en reconstruction mammaire, en augmentation à visée esthétique et dans le suivi post-opératoire de nos patientes déjà implantées? Ben, on les informe par obligation, de façon transparente sur ce risque-là, en le laissant quand même à sa place, c'est-à-dire que c'est une à deux femmes sur 10 000 patientes porteuses d'implants mammaires pendant 10 ans, alors que par exemple l'infection ou l'hématome est beaucoup plus fréquent. Donc, il faut que cette pathologie reste à sa place dans l'information. Il n'y avait entendu plus en mise en place d'implants retirés du marché. Les patientes qui en sont porteuses, il n'y a pas d'implantation préventive recommandée. On leur explique que cette pathologie est surtout une forme in situ, de façon très majoritaire, qui sera guérie après retrait de l'implant et capsulectomie.
Terminé.
Il n'y a pas de recommandation d'explantation préventive de ces implants. Dans le service, on a décidé de façon collégiale de ne plus poser d'implants macro-texturés, mais également de ne plus mettre d'implants micro-texturés pour le moment, parce que c'est compliqué d'expliquer la texturation à une patiente entre du sel fin et du gros sel. Donc, on pose des implants lisses aujourd'hui dans le service. Et puis, on essaye aussi de développer toutes les alternatives aux prothèses. Donc, on privilégie les techniques en reconstruction sans prothèse depuis longtemps, mais on l'applique aussi de plus en plus en chirurgie à visée esthétique, c'est-à-dire qu'on va utiliser la graisse de nos patientes pour essayer d'augmenter leur volume plutôt que de mettre en place des implants. Et quand on n'a pas le choix, on met des implants ronds à enveloppe lisse aujourd'hui de façon majoritaire. En conclusion, il ne faut pas banaliser ce risque, mais il ne faut pas effrayer les patientes porteuses de prothèses macro-texturées. Et surtout, recommandez à toutes vos patientes de conserver leur carte de prothèse mammaire dans leur portefeuille pour pouvoir la présenter en cas d'épanchement. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir fait cette mise au point sur un sujet polémique. Et la question qui revient plusieurs fois, c'est à quoi sert la texturation, si on pouvait résumer, parce que...
Alors, en fait, la texturation a pour but de réaliser une réaction inflammatoire pour fixer la prothèse, donc de donner un effet velcro pour éviter les rotations. C'est pour ça qu'on a à notre disposition deux catégories de prothèses, les implants ronds et les implants anatomiques qui ont une forme de sein. Donc les implants anatomiques sont obligatoirement texturés pour pouvoir se fixer au tissu et éviter de tourner. Le défaut des prothèses lisses, c'est qu'elles tournent. Le problème, c'est quand elles sont rondes, ce n'est pas un sujet, parce que finalement, elle va rester toujours dans le bon axe et ne pas déformer le sein. Donc c'est une tradition française, européenne, de mettre en place des implants texturés pour qu'ils se fixent au niveau des tissus.
D'accord, c'est clair. Et donc, ces prothèses rondes, le problème, ça va être enfin leur mobilisation. S'il n'y a pas de réaction inflammatoire suffisante, je suppose qu'il y a un risque de mobilité.
Alors, c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins facilement des implants anatomiques, puisque les implants anatomiques doivent être texturés. L'implant anatomique, c'est l'implant qui est en forme de sein, composé majoritairement en reconstruction mammaire, parce que l'inconvénient d'un implant rond, c'est qu'il donne un sein assez rond et juvénile, ce qui n'est pas trop le cas de la patiente à 50, 55 ans lors d'une reconstruction mammaire. Du coup, on est un peu bloqué aujourd'hui. Donc, de plus en plus de laboratoires sont en train de sortir des implants micro-texturés anatomiques, voire nano-texturés. Donc, c'est en gros, actuellement, essayer de placer le curseur entre laboratoires pour éliminer ses concurrents et pouvoir continuer à vendre des implants qui correspondent à la demande de nos patientes.
Très bien. Merci beaucoup. Et on va passer à l'intervention suivante, toujours sujet d'actualité. Donc vous savez que s'il y a des avancées thérapeutiques en médecine ces dernières années, s'il fallait en citer une, on dirait tous, je pense, biothérapie. Et donc, on voudrait, parce qu'on s'y perd, il y a de plus en plus de biothérapie. Donc, le but de cette intervention, professeur Brigitte Drainaud, c'était de refaire un point pour vous, médecin traitant, essentiellement pour savoir les quelques règles à appliquer sans aller forcément connaître dans les détails ces thérapeutiques.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais donc effectivement vous montrer aujourd'hui le suivi des patients centrant sur l'immunothérapie. Pourquoi ? Parce que l'immunothérapie, ce n'est pas que le mélanome, c'est utilisé dans le cancer du rein, dans le cancer de l'ovaire, dans beaucoup d'autres de cancers, et donc par conséquent, les prises en charge au niveau des effets secondaires vont être les mêmes. Juste pour vous situer, au niveau aujourd'hui des nouvelles approches thérapeutiques, soit on va avoir ce qu'on appelle de la thérapie ciblée, et comme on le voit donc là, on a en fait des cellules qui sont des cellules qui sont mutées, et vis-à-vis de ces mutations, on va avoir des médicaments qui vont aller tuer spécifiquement ces cellules tumorales. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est la modulation du micro-environnement tumoral qui est l'immunothérapie. On va avoir ainsi, et je vais vous le montrer, des anticorps qui vont venir se fixer sur ces fameux lymphocytes et augmenter leur activité en faisant de vraies cellules tueuses. Voilà, vous avez un exemple juste là, comment un lymphocyte vient se fixer sur une cellule tumorale et va la tuer, et donc on va augmenter ce pouvoir par l'immunothérapie. Aujourd'hui, quel que soit le type de cancer, en France, on a essentiellement deux anticorps. Le premier anticorps est appelé anti-CTLA4, c'est l'ipilimumab, et donc, vous le voyez, normalement, quand la cellule dendritique rencontre le lymphocyte, ce qui se produit, pour qu'il y ait une activation de lymphocyte, vous avez à ce moment-là une jonction qui va donc pouvoir se faire entre le CD28 et donc le complément qui est le CD80. Et votre lymphocyte est activé. Et vous voyez une petite molécule CTLA4 qui est dans le lymphocyte, qui est en train de s'exprimer à la surface, et cette molécule, elle a un pouvoir, c'est qu'elle est très attractive, et donc vous voyez comment elle va déplacer le CD80 vers le CTLA4, et à ce moment-là, votre lymphocyte T va s'endormir. Et donc, le principe de l'anticorps monoclonal, c'est de le glisser entre les deux pour maintenir votre lymphocyte T toujours actif. Voilà. Il reprend sa place et il va pouvoir rester actif. Ça, la jonction lymphocyté-cellule dendritique, c'est ce qui se passe au sein d'un ganglion. On a trouvé, en fait, depuis un deuxième anticorps, et on peut d'ailleurs l'associer, qui s'appelle l'anticorps anti-PD1. Les lymphocytes T expriment, comme vous le voyez, PD1. Les cellules tumorales que vous avez juste à côté expriment PDL1, et quand PD1 et PDL1 se rejoignent, le lymphocyte T s'endort. Donc là, à nouveau, on va pouvoir mettre soit des anticorps anti-PD1, soit des anticorps anti-PDL1 qui vont empêcher cette jonction et donc faire que votre lymphocyte va rester activé. Mais bien entendu, le lymphocyte T activé, porteur de cet anticorps, va reconnaître les cellules donc tumorales, mais malheureusement, quelque part, il peut toucher des cellules normales et par exemple les cellules de la peau. Et je vais vous citer trois effets secondaires pour lesquels, en fait, votre intervention va pouvoir se faire sans qu'il y ait obligatoirement besoin de faire appel aux spécialistes. Les effets secondaires, donc on dira auto-immun de ce fait, ce sont notamment les effets secondaires cutanés. Et celui qu'on voit le plus souvent, ce sont un prurit. Ce prurit, tout simplement, on va pouvoir le traiter par des antihistaminiques. Comme vous le voyez, il peut aussi y avoir des épaississements au niveau des pieds et des mains. Et donc, il peut y avoir une sécheresse de la peau qui va être induite par ces médicaments, voire pour certains de ces médicaments, une certaine sensibilité. Et c'est pourquoi, en fait, il est important tout simplement de protéger la peau du patient. Et quand vous les voyez, en fait, en consultation, qu'ils commencent à se plaindre de démangeaisons, eh bien, on leur donne des antihistaminiques et surtout, on contrôle leurs soins d'hygiène en leur donnant une crème hydratante, soit on va leur donner un émollient simple type Colcrim, soit on va leur donner une crème qui contient de l'urée, car c'est à la fois hydratant et ce qu'on appelle kératolytique, donc ça va enlever cette sécheresse de la peau. Point très important, le gel nettoyant. Et on insiste sur un gel nettoyant dont le pH soit acide, car le pH de la peau est à 5. Or, la majorité des savons classiques ont un pH à 8 qui va être irritant et augmenter les démangeaisons. Donc ça, c'est un point simple et très important. Et enfin, dernier élément, importance de leur donner, surtout à partir de maintenant au printemps, une crème solaire qui va être à la fois anti-UVB, mais aussi agissant sur les UVA. Ça aussi, c'est très important puisque la majorité des médicaments vont surtout induire une photosensibilité de type UVA. Voilà. Deuxième effet secondaire sur lequel vous pouvez agir, ce sont les colites. À côté de la peau, la muqueuse intestinale est très sensible, en particulier quand on fait une association d'anti-CTLA4 et d'anti-PD1. Et donc, ça va se manifester par une diarrhée. Attention, cette diarrhée au début, ça va être simplement une augmentation du nombre de selles. Ce n'est pas forcément une vraie diarrhée, d'où l'importance. En fait, on peut donner du loperamide pendant 48 heures, mais le message clé, c'est qu'au-delà, par contre, il faut rappeler le service qui suit le patient, car c'est important de mettre en route une corticothérapie systémique qui va couper la diarrhée. Sinon, elle va devenir chronique et on a des risques à ce moment-là d'inflammation sévère, voire de perforation intestinale. On le fait en intraveineux pendant 48 heures. Si au bout de 48 heures corticoïdes, ça ne marche pas, on met en route un anti-TNF. Mais ce qui est important, c'est d'aller vite. Et bien entendu, le diagnostic différentiel, c'est une gastroentérite infectieuse. Mais dans le contexte des patients, ça se pose peu. Donc, intervenir rapidement est un message clé essentiel. Juste enfin, pour le troisième effet secondaire, je vais partir du cas clinique. Voilà. C'est un patient qui a été vu, qui avait un mélanome sur une ponction. Vous voyez donc sa lésion. Au step scan qui a été réalisé et au scanner, on voit qu'il n'a pas d'autre localisation. On ne peut pas l'opérer. Les chirurgiens nous répondent c'est trop étendu. On va être trop mutilant et donc on met en route un traitement par immunothérapie qui associe, vous le voyez, les deux molécules dont je vous ai parlé. Il a sa troisième perfusion qui a lieu donc dans le service. Son examen clinique est normal. Il a une petite asthénie. On regarde chez ces patients systématiquement le bilan endocrinien, notamment donc thyroïdien, car on sait que les thyroïdes peuvent être touchées par un phénomène auto-immun, et il est à ce moment-là normal. Vous voyez que le surlendemain, le patient nous appelle en nous disant qu'il a des céphalées très intenses. Qu'est-ce que l'on pense immédiatement? C'est que ce patient peut avoir des métastases cérébrales. En fait, quand on va regarder ce patient, lorsqu'on va réaliser l'IRM que vous voyez là, qui a été faite en urgence, eh bien, on est devant une hypophysite auto-immune. Donc, le message, c'est que thyroïde et hypophyse sont en fait deux localisations que les traitements par immunothérapie aiment bien. Et bien entendu, on est tombé sur un cortisol effondré, TSH, T4 effondré, mise en route donc d'un traitement. Voilà, simplement pour vous dire qu'on peut retrouver des tableaux d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, donc lorsque vous avez des signes que vous connaissez très bien, donc d'asthénie, frilosité ou au contraire donc hyperactivité. Chez une patiente qui a un traitement par immunothérapie, pensez à la thyroïde et devant des céphalées, pas seulement à des métastases. Donc voilà, Et juste pour terminer, en ce qui concerne les lésions cutanées, on a fait en français et en anglais un petit livret qui s'appelle Toxicane avec le docteur Peuvrel, qui est un guide des effets secondaires cutanés. Vous avez les images, les grades de sévérité et ce que vous devez faire. Voilà, on est parti de la classification américaine. On a fait une classification française plus centrée sur les effets cutanés avec ce que l'on doit réaliser. Donc, message clé, pensez. Effets secondaires cutanés, antihistaminiques et les soins d'hygiène. Colite, je traite pendant 48 heures. Au-delà, si ça ne passe pas, je passe la main. Et enfin, thyroïde et hypophyse, deux cibles qu'aime bien l'immunothérapie. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette mise au point très synthétique sur un sujet qui est vaste, pointu, mais dont il faut connaître les effets secondaires, effectivement, quand on est en première ligne. Alors, il y avait une question de base. Est-ce qu'il faut faire un bilan endocrinien un peu systématique, facile, ou quelle est la position quand on a une telle immunothérapie? Est-ce qu'on fait TSH, pré-thérapeutique? Qu'est-ce que vous faites avant?
Alors, tout à fait. Effectivement, lorsque l'on a une immunothérapie, on fait tout simplement TSH, T4, c'est ce que nous recommandent nos collègues endocrinologues, et on va le contrôler une fois par mois, juste avant la perfusion. Je ne l'ai pas précisé, mais en moyenne, les traitements qui sont donc forcément en intraveineux, puisqu'on est sur des anticorps, c'est tous les 3 semaines ou une fois par mois, avec un contrôle que l'on va réaliser. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque on induit des troubles thyroïdiens ou une hypophysie, on va donc contrôler celle-ci par un traitement. Ce n'est pas une contre-indication à la poursuite de l'immunothérapie, en particulier si on a des sujets répondeurs. On le fait en contrôlant donc très régulièrement. Petit point aussi quand même qu'il faut savoir, c'est qu'en immunothérapie, on peut arrêter le traitement après une rémission complète. C'est un des gros avantages de ces traitements. Mais malheureusement, les troubles thyroïdiens hypophysaires peuvent persister.
D'accord, c'était aussi un aspect de la question, est-ce que c'est forcément réversible à l'arrêt ou non? Pas toujours, et de façon
retardée. Pas toujours,
retardée.
C'est pour ça que maintenant qu'on peut les utiliser en adjuvant, on est un peu prudent.
D'accord, et puis deux questions très pratiques, une qui est un peu délicate. Pouvez-vous nous citer un exemple de crème émolliante à l'urée? Alors je pense qu'il faudrait les citer toutes ou aucune, mais je te laisse répondre.
Je pense que sur les bonnes marques de cosmétiques aujourd'hui, et je pense que si on cite Aven, La Roche-Posay, Bioderma, Uriage, voilà, toutes ces grandes marques-là, globalement, ont des produits à base d'urée et qui sont vraiment très intéressants pour à la fois l'hydratation et empêcher cette désquamation ou la kératose pilaire qui peut être d'aspect rap que l'on a induit par les traitements.
Parfait, merci. Et puis une dernière question, quelle est l'adresse du site Toxicane?
Alors, le site Toxicane, en fait, si vous allez sur IDEGO, sur notre site IDEGO, qui est le site de l'Institut d'Hermatologie du Grand Ouest, vous allez retrouver Toxicane dessus.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Brigitte, et je te redonne la parole parce que c'est toi qui vas enchaîner avec... Là aussi, un sujet d'actualité, parce que bon, on est tous concernés, je citais également la médecine vasculaire, mais on a tout intérêt à mettre au point et en place des programmes thérapeutiques, parce qu'il n'y a pas que l'allothérapie, et les gens sont de plus en plus demandeurs d'une prise en charge globale, intégrée, et l'éducation thérapeutique a une place énorme dans nos pratiques de plus en plus. Donc je te remercie de parler de ce programme d'éducation thérapeutique en dermatologie.
Merci beaucoup Marc-Antoine. Donc EduDerm, c'est effectivement un programme d'éducation thérapeutique qui est appliqué à plusieurs dermatoses et je vous propose de regarder simplement cette vidéo d'introduction et je vous compléterai par quelques messages. Je ne sais pas si je peux mettre moi-même en route la vidéo. Est-ce que vous pouvez la mettre en route? Alors, juste pour dire, en fait, l'histoire a commencé il y a longtemps avec le professeur Salder et le docteur Sébastien Barbaro qui ont créé l'école de l'atopie. Donc, ça a été l'eczéma atopique qui a été en fait tout à fait le point de départ de l'éducation thérapeutique. Et puis, au départ, l'ARS soutenait les programmes de dermatologie et toujours pour des raisons financières, la peau s'est retrouvée un petit peu isolée. Avec l'ensemble de l'équipe du service, eh bien, on a trouvé des financements qui nous ont permis de créer une éducation thérapeutique que l'on a élargie à partir de l'expérience de l'eczéma atopique sur les autres indications et en particulier avec notamment l'expérience de Claire Bernier et également d'Hélène Aubert dans le service, le psoriasis. Puis on a donc développé également sur d'autres domaines comme par exemple l'hidrosadénite suppurative, également l'urticaire chronique. Alors si on peut, on va vous montrer un peu ce qu'on a mis à disposition des patients parce que je pense que c'est important que vous le connaissiez. Voilà, cette vidéo qui va vous être présentée. Vous pouvez pas? On pourra pas. Bon, ben tant pis, on va passer donc sur la diapositive suivante, mais vous pouvez la retrouver sur le site d'Idego également. Alors là, j'ai plus la main pour passer les diapositives. Vous pouvez me redonner la main? D'accord, ça marche. Pas de problème. Bon, on va pas se... Allez-y. Ce qu'on appelle le direct. Donc on ne peut plus passer là, on saute la vidéo. On est d'accord. Parfait. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce que l'on peut donc faire. Il va y avoir, vous voyez, depuis pratiquement 2 ans que ça a été mis en place dans le domaine du psoriasis, comme je vous le disais, l'urticaire, la maladie de Verneuil et bien entendu les cancers cutanés où on essaye donc d'expliquer aux patients un peu ce que je vous ai dit donc précédemment. Il y a des ateliers qui sont également mis en place avec l'équipe d'infirmières, psychologues, les diététiciennes qui vont également intervenir. Et là, ce sont des groupes de patients qui, en présence d'infirmières et de médecins, eh bien, vont discuter entre eux. Ce sont en général des groupes de 4-5 personnes animées et mis au point par les médecins et les infirmières du service. Alors, ces ateliers, donc, il y a des tours de présentation, des temps de centration, d'identification des problématiques, de co-construction, de résolution de ces problématiques, une sorte de brainstorming, essai de retour vers soi et, en fait, des fiches qui vont être créées et qui vont être les fiches de premier pas et comment avancer. Au total, des ateliers que les patients les plus atteints dans leur pathologie, notamment inflammatoire, donc aiment bien. Et vous voyez, on décide après quel sera votre premier pas, avec toujours la possibilité d'affiches de différents éléments pour pouvoir les aider. Comment vous sentez-vous? Avec quoi vous partez? Alors, bien entendu, on s'est heurté au problème du confinement. Comment on a fait? Eh bien, il y a surtout le téléphone, des vidéos, la découverte de la pratique de l'hypnose qui a également été développée en visio et par téléphone, du dessin thérapeutique, beaucoup plus d'échanges de mails avec les patients et notre équipe d'infirmières, des ateliers Zoom qui ont été mis en place également, continuité dans tous les cas de lien entre le patient et l'équipe, recherche de ressources pour les enfants, les parents, les adolescents, les adultes, les soignants et une mise à jour documentaire qui est réalisée régulièrement par la secrétaire donc d'Eduderm qui est Isabelle Gauvry, échange avec les psychologues du CHU. Donc ce projet en fait Eduderm, ce qui a changé simplement aujourd'hui, c'est qu'en raison de l'annulation des consultations médicales, Bon, on travaille beaucoup plus sur un appel virtuel, on a plus d'appels, plus de renouvellement d'ordonnances également par mail ou par courrier, et plus à l'écoute du besoin du suivi psychologique, donc important, et réajustement d'ateliers collectifs par vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà l'ensemble de l'équipe. Et ce que je voulais également donc préciser, c'est qu'Eduderm, aujourd'hui, en fait, ça a été créé par la Fondation de l'Université, associée au Fonds de dotation du CHU, et on est soutenu par plusieurs laboratoires avec qui on travaille pour essayer justement d'améliorer cet encadrement des patients. Voilà, je vous remercie.
Très bien. Donc, on ne pourra malheureusement pas passer la vidéo. Vous confirmez ? Voilà, on va regarder pour la vidéo. Il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, peut-être à retardement si tout va bien, la vidéo. Il n'y a pas de questions spécifiques. Ce que je te propose, Brigitte, c'est d'encerner sur le dernier volet de l'actualité, qui était déjà un sujet d'actualité bien auparavant. Quand on parle de télé-expertise, bien sûr, notamment pour les dermatologues, en raison de la forte sollicitation que vous avez dans vos spécialités, mais qu'il est devenu plus encore depuis un an, parce que tout le monde a entendu parler de l'explosion de cet aspect de notre activité à tous. Donc, c'est un sujet, on ne peut plus d'actualité que de parler de la télé-expertise.
Effectivement, c'est un sujet donc d'actualité. Donc après, ce qu'on pourrait appeler l'outil éducation thérapeutique, on a effectivement travaillé dans le service tout récemment sur l'étude de la télé-expertise, en commençant par ce qui était un peu le caractère le plus urgent en dermatologie, qui était celui de l'onco-dermatologie. L'idée, elle est venue d'abord parce qu'il y avait IDEGO qui était mis en place et donc déjà ce réseau d'instituts du Grand Ouest était une raison de base et surtout parce que les demandes sont de plus en plus importantes de la part des médecins généralistes avec des dermatologues dans la région, en particulier des régions comme le 85 ou le Morbihan sont des régions où il y a de moins en moins de dermatologues et que bien entendu au niveau du CHU, on n'arrivait plus à faire de réponse. Donc, on est parti dans cette réflexion et ce qu'on a décidé, c'est tout d'abord de faire une première réunion dans laquelle ont participé des dermatologues et des médecins généralistes pour voir ce qui était le plus adapté. Et là, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas la téléconsultation. Et je me souviens très bien de médecins généralistes me disant « mais la téléconsultation, ça nous fait consommer du temps aussi. Nous, le temps, bien, c'est très précieux pour nos patients. Et donc, on aimerait mieux quelque chose qui soit plus adapté. » Et la télé-expertise leur paraissait plus adaptée. Alors, quel est l'enjeu ? Bien, l'enjeu, c'est d'apporter une expertise dermatologique rapide en cancérologie cutanée dans un premier temps, puis bien entendu notre objectif ensuite c'est de pouvoir s'ouvrir compte tenu, comme je vous l'ai dit, du manque de spécialistes. Ça permet une égalité d'accès à cette expertise pour tous les patients du Grand Ouest, apporter également une solution conduite à tenir vite pour éviter un adressage aux dermatologues de ville ou aux centres hospitaliers. C'est bien sûr et avant tout cibler le mélanome, notamment pour lequel un diagnostic rapide peut permettre une guérison, et ça c'est un terme très fort, proposer un outil qui soit sécurisé et rapide pour la transmission des informations, et finalement tracer le recours à la télé-expertise aujourd'hui avec l'éligibilité et la facturation de droit commun de la sécurité sociale. Alors, qui peut adresser des cas donc à ce réseau ? Médecins généralistes ou dermatologues libéraux qui sont donc médecins requérants. La télé-expertise a été mise en place avec la plateforme donc d'e-santé de l'ARS des Pays de la Loire. Quels sont les motifs d'adressage ? Eh bien, vous voyez, ce sont les lésions pigmentées suspectes, ça vous en avez, puisqu'on vous dit qu'à partir du moment où un évus change, il faut le montrer rapidement, qu'on n'avait pas de solution parce que les rendez-vous des dermatologues, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville, sont longs. C'est pour vous un moyen d'avoir un premier avis et à ce moment-là, bien entendu, de mettre en place le parcours de soins du patient. Donc voilà typiquement des lésions cutanées qui étaient suspectes. On a également d'autres types de cancers cutanés. Vous avez ici donc l'exemple de carcinome cutané, pour lequel va se poser la question du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. On peut être amené également à discuter, comme vous le voyez, d'autres types de lésions, de réactions cutanées sous traitement anticancéreux. Je vous en ai parlé juste avant. Il fallait aussi qu'on puisse répondre si vous aviez besoin, ou y compris pour d'autres motifs d'effets secondaires liés au traitement anticancéreux. Et là, le réseau de téléexpertise prend également en charge pour vous donner les réponses. Donc, toute réaction sous traitement onco-dermatologique. Alors, comment ça marche? Eh bien, vous êtes dans votre cabinet libéral, vous êtes ce que l'on a appelé le médecin requérant. Vous allez vous connecter donc à la plateforme qui donc sera mise en place via un logiciel par e-santé. Vous pourrez avoir créé et complété votre dossier qu'on a prévu excessivement court, avec vraiment les éléments minimums qui nous permettent de nous aider sur le plan du diagnostic et bien entendu la photo. Le dossier est soumis avec deux médecins régulateurs dans l'in-service pour assurer la continuité, dont un médecin dermatologue actuellement et un médecin généraliste urgentiste pour le problème notamment des effets secondaires. Et puis, à partir donc de là, vous allez avoir une réponse en sachant que vous recevez systématiquement un SMS qui vous dit « la réponse vous sera donnée dans les 24 heures » et on va vous envoyer effectivement la réponse. S'il s'avère que les deux médecins régulateurs n'ont pas la réponse immédiate, on est bien sûr l'équipe de médecins experts derrière qui verront le dossier, qui renverront notre réponse au médecin régulateur, car c'est lui qui coordonne l'ensemble et vous donnera donc la réponse délai 24 heures. Ça, c'est un engagement que l'on a pris pour tous les dossiers. La plateforme, donc, c'est la plateforme e-santé des Pays de la Loire qui donc vous installe le logiciel qui vous permet de le faire. Le périmètre aujourd'hui qui était le plus urgent et qui correspondait aussi à notre ARS, c'est la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc 44 et 45. Et l'idée après, c'est bien entendu d'avoir un développement sur les autres régions de notre ouest. Juste, voilà donc, vous avez ici les différents médecins, le docteur Ibtissam Moustaguir qui est donc dermatologue et vous avez le docteur Gaëtan Loll qui est donc le médecin généraliste. Vous avez également l'équipe en fait de recherche clinique et du CIC de biothérapie avec donc le docteur Florence Rivirignon et Émilie Varet qui vont donc ainsi que Amir Kamari qui sont des éléments clés dans la mise en place de ce réseau de téléexpertise. Pour cela, on vous envoie dès que vous êtes inscrit la procédure à la plateforme de télémédecine et c'est en particulier Émilie Varet qui assure donc toute cette coordination pour vous aider à mettre en place. Donc notre idée, c'est vraiment, vous avez un doute sur un plan diagnostique, vous avez un effet secondaire quel qu'il soit induit par l'immunothérapie, on est là. S'il s'avère que l'on pense que c'est bénin, eh bien à ce moment-là, la réponse vous est faite, c'est bénin, avec une proposition de traitement, par exemple cryothérapie, et ça rejoint le topo qui vous a été fait par Véronique Pistorius. Soit on dit « attention, ça peut être suspect » et on vous donne un rendez-vous de consultation, vous n'avez pas à aller le prendre. Troisième hypothèse, c'est un effet secondaire ou autre qui nécessite une prise en charge rapide où on pense que c'est un mélanome et une urgence. Et dans ces cas-là, si besoin, rendez-vous d'hospitalisation sera donné. On vous évite donc d'avoir ce temps d'attente au niveau des rendez-vous. Voilà. On espère, toute l'équipe, en tout cas du service de dermatocancérologie, que ça pourra nous aider à interagir davantage en tenant compte, bien sûr, des déficits de médecins que l'on a dans la région et dont Véronique Pistorius vous a déjà largement parlé. Voilà, je suis à votre disposition.
Merci beaucoup Brigitte pour ce résumé très clair sur la téléexpertise et surtout pour l'organisation et la précision de votre organisation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous dans toutes les spécialités réussi à faire ça et vous avez une structuration qui est exemplaire là-dessus. Alors il n'y a pas de questions spécifiques, ce qu'on va pouvoir faire par contre, on devrait pouvoir récupérer la vidéo sur le programme d'éducation, donc si on peut la lancer, ça nous permet, comme on est dans les temps, de bien la regarder.
acteur de votre santé pour vous sentir mieux dans votre peau.
Donc, voilà cette vidéo qui donc est sur IDEGO, qui est également bien sûr sur le site du CHU et sur le site de l'université. Et je voulais aussi remercier, et il est là, Cédric Rat, parce que c'est vrai qu'au niveau des interactions entre la dermatologie et la médecine générale, à ce niveau, il nous aide énormément. Il nous permet en particulier de bien garder les pieds sur terre et nous rappeler au quotidien ce qu'est le vrai métier du généraliste et ce dont il a besoin. Et ça nous aide énormément, notamment dans la mise en place de ce réseau de télé-expertise.
Très bien. Donc la vidéo est disponible en ligne également. Donc on pourra renvoyer le lien pour les quelques personnes qui n'avaient pas le son. Il y a ponctuellement eu des problèmes techniques, mais ils sont assez rares et ponctuels. Donc rassurez-vous, on va pouvoir vous aiguiller sur un lien. Et puis l'intervention, c'est une question qui est posée également sur les huiles essentielles. Malheureusement, est annulée pour les raisons de logistique de l'intervenante. Donc on le regrette bien sûr, mais ça fait partie des aléas de ce type de réunion qui est un peu d'un nouveau format auquel on a tous été contraints à s'habituer. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, avant de donner la parole à Brigitte, qui est le pilier fondateur de ce type de réunion, pour conclure, je voulais simplement conclure ma modération en disant merci à l'équipe technique d'avoir pu assurer la logistique, parce que comme dit, c'est un nouveau type de réunion. On a été obligé de s'adapter assez vite et ça fonctionne plutôt bien, comme vous l'avez vu, donc y compris en termes d'interaction. Donc nous, on est pour notre part satisfait surtout parce que c'est toujours important d'avoir un nombre important de connexions, bien sûr, c'est rassurant, mais ce qui est encore mieux, c'est de les maintenir dans le déroulé de la matinée. Parce que si on voit le nombre de participants s'effriter, c'est pas bon signe, et là, ça n'a pas été le cas. Donc merci à vous de votre présence, de votre constance, un samedi matin pour ce type de réunion et qu'on espère renouveler l'an prochain. Alors sous quel format, personne n'est capable de le dire pour l'instant. En tout cas, on s'adaptera pour être présent au rendez-vous de mars prochain. Voilà, je laisse la parole au professeur Greno, qui est fondatrice de cette réunion, pour conclure cette matinée sur le CRESIP.
Merci beaucoup, Marc-Antoine. Donc voilà. On a essayé, via la COVID, ça nous a obligés à réfléchir et à créer ce nouveau modèle. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a permis de vous apporter des informations qui vous intéresseront dans votre pratique quotidienne. En tout cas, ça a été l'objectif de toute l'équipe. Surtout, n'hésitez pas sur le chat de nous dire ce que vous souhaiteriez pour l'année prochaine, qu'est-ce qui vraiment vous intéresserait comme sujet. Pour nous, c'est important, et si ça a répondu. Marc-Antoine posait la question de l'année prochaine. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on réfléchit dans tous les cas, même s'il y a du présentiel, à maintenir ce modèle, parce qu'on trouve que c'est une très bonne réponse. Ce matin, vous étiez plus de 120 personnes connectées, donc ça permet une diffusion qui est importante. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais aussi remercier effectivement donc l'équipe et les sociétés Aptatio et TechAdvis qui nous ont aidés, régisseurs, techniciens. C'est assez amusant parce que là, on a vraiment un modèle d'interdisciplinarité complet, puisqu'on est en fait dans le monde de la culture avec des intermittents du spectacle et également des médecins, des chirurgiens. Donc voilà, c'est toute la force aujourd'hui avec ce type de modèle de l'interdisciplinarité. Je voulais remercier aussi l'équipe du CIC de biothérapie, en particulier donc Alexandra Poinas, également donc Florence Vrignot, Amir Camari, et puis qui sont donc, je dirais, l'équipe de base qui toute l'année travaille, et puis Marc-Antoine, j'ai cité Cédric Rat, nos collègues chirurgiens donc que vous avez vus avec Pierre Perrault, l'équipe d'ORL donc avec Florian. tous, vraiment, c'est de l'interactivité, c'est toutes les disciplines autour de la peau. Et ce modèle nous paraît vraiment important. Et vous intervenez, vous aussi, tous les médecins, dermatologues, médecins généralistes, autour de cette interdisciplinarité. Personnellement, je suis persuadée qu'on ne peut avancer en médecine que dans l'interdisciplinarité. Ce que je peux déjà vous dire, c'est vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, car voilà, on est absolument décidé, que ce soit sous un format hybride ou sous un format virtuel, on s'adaptera, mais on vous donne, toute l'équipe, rendez-vous à l'année prochaine. Et encore merci pour votre fidélité aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.